et il est temps de retrouver Aurélie Kiefer pour le journal. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Benjamin Netanyahou a jeté toutes ses forces dans la bataille des législatives. Va-t-il se maintenir au pouvoir et déjouer l'offensive de Benny Gantz? Nous irons à Tel Aviv dans un instant faire un point sur la participation. Message sanglant des talibans, au moins 48 personnes sont mortes dans deux attaques suicides. L'un d'entre eux visait un rassemblement électoral du président afghan Ashraf Ghani. Le réchauffement climatique encore plus rapide qu'on ne le prévoyait. Pour échapper au pire des scénarios, il faut accélérer les efforts, nous disent des scientifiques français. Explication de Véronique Rebérotte. Regardez l'immigration en face. La consigne d'Emmanuel Macron aux parlementaires de la majorité est diversement entendue et appréciée. Reportage de Rosalie Lafarge à l'Assemblée. Aller encore un peu plus à droite ou virer complètement à bâbord. Les Israéliens ont encore 3 heures pour fixer le cap. Soit ils appuient le Likoud et ses alliés, droite et parti religieux, et Benjamin Netanyahou sera une nouvelle fois reconduit à la tête du gouvernement. Soit ils soutiennent la formation centriste, bleu-blanc, la gauche ou les partis arabes, et l'ancien chef d'état-major de l'armée prendra la main. La campagne électorale a été d'autant plus acharnée que le premier ministre israélien mise sur sa réélection pour échapper aux ennuis judiciaires. Et les pronostics étaient jusque-là assez serrés. L'issue du scrutin dépendra donc beaucoup de la participation à ces élections. Élections législatives anticipées. Nous retrouvons à Tel Aviv Frédéric Mettezo. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
Vous vous trouvez devant le QG du Likoud, le parti du Premier ministre, pour suivre cette soirée électorale. Qu'est-ce qu'on sait ce soir de la participation ?
La participation à 16h, Aurélie, était de 44,3%. C'est plus qu'en avril dernier aux dernières législatives, en hausse de 1,5%. Mais on ne sait pas encore à qui cela va bénéficier. Grosso modo, si Tel Aviv et si les électeurs arabes se mobilisent, ce n'est pas bon signe pour le Premier ministre sortant. Et inversement, Netanyahou, lui, compte beaucoup sur les électeurs du sud d'Israël, la périphérie du pays. Il compte aussi sur le cœur populaire de Jérusalem-Ouest et bien sûr sur ses colons israéliens de Cisjordanie qu'il n'a cessé de courtiser pendant cette campagne.
Et alors cette journée de vote a été riche, Frédéric, puisqu'en Israël, la campagne dure jusqu'à la dernière minute.
Oui, jusqu'au bout, Aurélie, ça n'a rien à voir avec un dimanche tranquille en France. La campagne se fait sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur le terrain, à la radio. Benny Gantz, le candidat centriste, est allé à la rencontre des baigneurs à Tel Aviv, pas loin d'ici, visiblement très détendu. Netanyahou, lui, s'est rendu dans 2 endroits stratégiques et fréquentés de Jérusalem, la gare routière et le chouk de Marané Yehuda, un marché très populaire. Mégaphone à la main, il a dit qu'il risquait de perdre à cause de la mobilisation des électeurs arabes. Il est coutumier, Netanyahou, de ce genre d'annonces pour mobiliser son électorat. Il y a aussi pas mal de bluffs, mais parfois ça se tend vraiment sur le terrain. Des militants du Likoud de droite ont tenté d'introduire des caméras dans les bureaux arabes. Pour éviter toute contestation, la commission électorale a dépêché 3000 inspecteurs. Le dépouillement qui doit débuter à 21h devrait prendre plus de temps que prévu. Et sachez pour terminer que la commission électorale a interdit au Likoud de distribuer des glaces à proximité des bureaux de vote. Il fait encore très chaud aujourd'hui en Israël. Elle a aussi interdit au parti religieux Chasse d'offrir des amulettes, symbole de bénédiction divine, à condition que les gens votent pour lui.
Frédéric Mettezo en direct de Tel Aviv avec Christophe Papon à la technique. 10 jours après la fin des négociations avec les États-Unis, nouvel acte de guerre des talibans. Non seulement ils refusent tout dialogue avec le gouvernement afghan, mais ils veulent empêcher le déroulement de l'élection présidentielle du 28 septembre en multipliant les actes de guérilla. Les talibans revendiquent aujourd'hui 2 attaques suicides meurtrières, des attaques qui ont tué au moins 48 personnes, dont de nombreux civils. L'un des attentats visait la capitale, Kaboul. L'autre a eu lieu près d'un meeting de campagne du président afghan, candidat à sa propre succession. Les précisions de Sonia Ghazali.
L'explosion a retenti alors qu'Ashraf Ghani était à la tribune. Le président afghan, en campagne pour la présidentielle du 28 septembre, s'adressait à des centaines de personnes réunies dans le centre d'entraînement de la police de la province de Parwan. Toutes ont vu un nuage de fumée s'élever dans le ciel, quelques mètres plus loin à l'extérieur. Un kamikaze venait de se faire exploser à un barrage tout proche, tuant de nombreux civils et des militants qui se rendaient au meeting du président en campagne. Un homme a déclenché sa ceinture d'explosifs à un rond-point très fréquenté de la capitale et qui se trouve près de l'ambassade des États-Unis et du ministère de la Défense. Les talibans affirment avoir visé les forces gouvernementales. Les victimes sont en majorité des civils, répliquent les autorités afghanes. Le climat sécuritaire ne cesse de se détériorer alors que le scrutin présidentiel aura lieu dans 11 jours. Les talibans ont mis en garde la population de ne pas aller voter. Ils ont prévenu qu'ils s'attaqueront au processus électoral. Les cibles potentielles sont les meetings politiques, les QG de campagne. Il y a d'ailleurs eu une explosion près de celui d'Ashraf Rani, situé à Jalalabad, dans l'est du pays, il y a 3 jours. Les bureaux de vote sont aussi clairement des cibles pour les talibans. Le scrutin se tiendra malgré les risques sécuritaires très élevés. Parmi les 16 candidats en lice, nombreux sont ceux qui ont renoncé à faire des meetings en dehors de Kaboul. Les rassemblements extérieurs sont à éviter tant il est facile pour un kamikaze de se mêler à la foule, comme cela s'est déjà produit dans le passé et notamment l'année dernière lors des élections parlementaires.
Sonia Ghezali, correspondante de Radio France Internationale à Kaboul pour France Culture. L'attaque du week-end contre l'Arabie Saoudite a été menée depuis le sol iranien et des missiles de croisière ont été utilisés, indiquent des responsables américains. Il ne s'agit cependant pas encore d'une accusation officielle. L'administration américaine est en train de préparer un dossier pour prouver ses dires et convaincre la communauté internationale. Si cette attaque a réveillé la crainte d'une escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran, l'heure est plutôt au soulagement. Les prix du pétrole qui s'envolaient hier sont redescendus aujourd'hui. Des informations de presse indiquant que la production saoudienne pourrait être rétablie d'ici 2 à 3 semaines. Les prix des carburants, une préoccupation forte en France. Le gouvernement n'a pas oublié que c'est une hausse de ces prix qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Il est d'ailleurs déjà très sollicité pour baisser les taxes sur les carburants.
Oui, par d'abord certaines associations de consommateurs. L'UFC Que Choisir va ainsi lancer une pétition demain pour réclamer la suppression de l'une des taxes qui pèsent sur le carburant. On rappelle en effet que le prix d'un litre d'essence ou de gazole est constitué aux 2/3 de taxes, le tiers restant étant basé sur les cours du brut. En parallèle, un collectif de gilets jaunes, baptisé les Gilets jaunes citoyens, appelle le gouvernement à geler les prix du carburant, ce qu'il n'a pas la possibilité a priori de faire. Et puis à la mi-journée, sur France Culture, le président de l'UFIP, l'Union des industries pétrolières, expliquait entre les lignes que la balle était dans le camp de l'exécutif, étant donné le poids des taxes dans la composition du prix à la pompe. Mais au gouvernement, on estime que ce sont les compagnies pétrolières qui doivent entrer en action, à elles de modérer les prix, disait ce matin le nouveau secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari. Selon nos informations, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a bien l'intention de les recevoir dans les prochains jours. Et en tout cas, à Bercy, on explique qu'il n'est pour l'instant pas question de jouer sur les taxes. D'abord parce qu'à 68$ le baril, on est loin des niveaux qu'on a pu connaître pendant la crise des Gilets jaunes. On était monté jusqu'à 85$ le baril. Et puis parce que les mécanismes utilisés par le passé n'ont pas produit tous leurs effets. Souvenez-vous, c'était la TIPP flottante mise en œuvre sous le gouvernement Jospin, avec une taxe modulée à la hausse ou à la baisse quand les cours du Brent variaient de plus de 10%. Un gros effort pour les finances publiques avec une baisse limitée des prix à la pompe, avait estimé la Cour des comptes. Tout ça repose en tout cas à la question de la taxe carbone, gelée cette année pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. En sera-t-il de même cette année? Le sujet ressurgira certainement lors du prochain budget examiné à l'automne par le Parlement.
Anne-Laure Jumet. La Birmanie continue de commettre des crimes contre l'humanité, contre la population rohingya. C'est ce qu'affirme un nouveau rapport de l'ONU, encore plus accusateur que les précédents à l'égard du régime birman. Tortures, viols, restrictions de circulation. Pour les enquêteurs, les quelques 600 000 musulmans rohingyas restant en Birmanie vivent sous la menace d'un génocide, ce qui rend impossible le retour des réfugiés installés au Bangladesh. La dirigeante Aung San Suu Kyi, épargnée jusqu'ici, pourrait bien devoir rendre des comptes. Les précisions de Jérémy Lange depuis Genève.
Le dernier rapport de la commission d'enquête sur la Birmanie avait largement épargné la prix Nobel de la paix. Mais la situation des Rohingyas n'est pas juste désastreuse, dit l'ONU et l'Empire. Le silence du gouvernement civil dirigé par Aung San Suu Kyi pourrait être un silence coupable. C'est ce que dit l'un des enquêteurs, Chris Sidoti.
C'est vrai qu'au sein du gouvernement, les civils ne contrôlent pas les militaires, mais la Constitution leur donne beaucoup de pouvoir. Ce sont les civils qui contrôlent l'éducation. Les enfants Rohingyas n'ont pas accès aux écoles. Ce sont les civils qui sont en charge de la santé. Les Rohingyas dans les camps déplacés en sont privés.
Le parti de Aung San Suu Kyi contrôle le Parlement. Il peut changer la loi sur la citoyenneté et ne l'a pas fait. Il peut changer la loi sur le contrôle des médias et ne l'a pas fait. Il dirige aussi la justice. Plus le temps passe et plus il sera impossible pour les civils du gouvernement birman d'échapper à leurs responsabilités devant un tribunal pénal international.
Reste un obstacle de taille, la volonté politique. Le Conseil de sécurité ne semble pas pressé de saisir la Cour pénale internationale, même si un début de procédure est en cours. Une autre piste passe par la Cour internationale de justice, au pouvoir plus limité, mais dont la Birmanie est membre. Dernière solution évoquée, la création d'un tribunal ad hoc sur le modèle du Rwanda ou du Cambodge. Dans ce dernier cas, il a fallu 40 ans pour qu'un procès voie le jour. Les responsables des atrocités en Birmanie seront jugés, assure une membre de la commission d'enquête. Nous ne savons juste pas quand.
Le président du Conseil italien Giuseppe Conte recevra demain Emmanuel Macron en visite éclair à Rome. Le président français compte notamment sur ce nouveau gouvernement pro-européen pour trouver une solution commune sur la question migratoire. L'immigration, un sujet que le chef de l'État ne veut pas laisser à la droite et à l'extrême droite en vue des municipales de 2020, mais surtout de la présidentielle de 2022. À 15 jours d'un débat sur l'immigration au Parlement, Emmanuel Macron a indiqué le cap à sa majorité parlementaire hier soir, mais cette majorité est divisé, Rosalie Lafarge.
Oui, il veut regarder le sujet de l'immigration en face, le président. Il refuse d'abandonner ses questions au Rassemblement national. Et pour l'ancien LR, devenu député En Marche, Thierry Soler, Emmanuel Macron a bien raison.
Une politique migratoire, c'est pas un gros mot. Il faut jamais s'embourgeoiser. Donc il n'y a pas de débat tabou. Et sur les sujets de l'immigration, encore une fois, il faut aborder ça d'une manière non angélique. Pas de surenchère, pas de politique politicienne sur ces sujets. Un constat le plus objectif possible. Et puis des décisions fortes.
Emmanuel Macron veut agir essentiellement sur le droit d'asile, principe qu'il réaffirme mais dont il veut réduire les abus.
Je ne partage pas cette idée comme quoi il y aurait des abus.
Erwan Balanon est député Modem.
Il faut qu'on se pose la question de comment on lutte contre un certain nombre de choses aujourd'hui qui existent, qui sont par exemple les communautarismes. Comment on fait pour que les gens qu'on accueille soient dans des bonnes conditions et puissent s'intégrer parfaitement dans notre pays. C'est toutes ces questions-là qu'il faut poser. Il faut les poser sereinement et il ne faut pas les poser de façon caricaturale.
Mais pour le sereinement, ce n'est pas gagné. 15 députés de l'aile gauche de La République En Marche publient une tribune aujourd'hui pour défendre l'intégration et le fait que l'immigration est une chance pour notre pays. Martine Vonner fait partie des signataires.
Certes, on va rentrer dans une phase d'élection. On commence par les municipales, mais on ne va plus s'arrêter jusqu'aux prochaines présidentielles. Donc là, il convient d'être particulièrement attentif à rassembler, mais pas aller chercher les extrêmes, et surtout pas cette façon-là. Et ne nous laissons pas piéger. On n'est toujours pas submergé par un flux migratoire quelconque. Ce n'est pas vrai.
Dans leur tribune, ces 15 députés appellent à poser les bons termes et les bons chiffres pour éviter une hystérisation du débat prévu dans 15 jours à l'Assemblée.
Rosalie Lafarge. Il prétend frapper fort contre les trafiquants de drogue. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, vient de présenter un nouveau plan anti-drogue en 55 mesures. Il annonce en particulier la création d'un organisme, l'OFAST, qui doit coordonner l'action de tous les acteurs dans la lutte anti-stupéfiants au niveau local et national et qui associera pour la première fois dans sa gouvernance police, gendarmerie, douane et magistrats. L'OFAST doit être opérationnel le 1er janvier prochain. C'est une arnaque qui a représenté ces deux dernières années au moins 1 milliard d'euros en France. L'escroquerie financière via des sites internet factices est en hausse constante et de plus en plus difficile à détecter. Les auteurs de ces arnaques proposent des produits d'investissement très rentables, à première vue, donc très alléchants. Mais derrière, ce sont souvent des pertes financières très importantes qui sont au rendez-vous. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
On recense plus de 1000 sites internet frauduleux.
Imaginez un site internet nickel, il vous propose toute une sélection de grands crus à 1000 euros la bouteille en moyenne. La page de présentation l'explique. Il faut investir dans une cave de grands crus pour se constituer un patrimoine d'exception. Ces vins vont se bonifier, tandis que sous l'effet de la consommation, les stocks vont se raréfier. Il en résulte une appréciation du prix du vin. Sauf que si vous passez commande via Mastercard ou PayPal, il y a peu de chances que vous débouchiez un jour une de ces bouteilles. Ce site, toujours en ligne, fait partie de la liste noire publiée sur le site Assurance Banque Épargne Info Service. En gros, c'est une arnaque, comme il en existe désormais beaucoup dans de multiples domaines. Robert Offel est le président de l'Autorité des marchés financiers.
Ça peut être des vaches laitières, du vin, du diamant, des cryptoactifs, du forex, multitude de supports. Aujourd'hui, sans qu'il y en ait un qui émerge de façon nette.
Ça veut dire que les escrocs s'adaptent aux modes ?
Ils sont extrêmement agiles, extrêmement organisés. Ils sont organisés sur une base mondialisée, avec un niveau d'expertise extrêmement fort, à la fois dans les techniques informatiques qu'ils utilisent et la psychologie des attaques qu'ils font. C'est du harcèlement sur les personnes les plus vulnérables, souvent, avec l'angle qui fait mal.
Et les personnes les plus vulnérables, ce sont bien souvent les personnes âgées. Les plus de 50 ans représentent plus de 65% des victimes, 81% des sommes perdues. Leur patrimoine est plus important, ils sont plus disponibles pour les sollicitations et parfois aussi plus vulnérables. Et bien souvent, après ce genre d'escroquerie, c'est un sentiment de honte qui domine chez les victimes, ce qui fait que beaucoup hésitent à porter plainte et de l'aveu même du procureur de la République de Paris, Rémi Yates, les poursuites sont complexes car ces escrocs agissent bien souvent depuis l'étranger.
Les virements sont effectués dans des pays de l'Union européenne, mais très vite, l'argent repart sur des contrebons, sur d'autres comptes, vers des pays avec lesquels la coopération est beaucoup plus difficile. Malheureusement, les personnes qui investissent et qui confient de l'argent donc à ces escrocs n'en revoient jamais la couleur, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de retour. L'argent est souvent définitivement perdu et les escrocs ne manquent pas d'imagination et élaborent des stratagèmes de plus en plus complexes.
Face à ce fléau grandissant, une application va prochainement être lancée. Elle proposera la liste noire des sites internet frauduleux et permettra aux victimes de signaler des arnaques.
Eux ne vous font pas de belles promesses. Plus ils se penchent sur le dérèglement climatique, plus les scientifiques sont pessimistes. Selon les dernières études menées par des chercheurs et ingénieurs français, le réchauffement dit risque d'être encore plus important qu'on ne l'envisageait. Bonsoir Véronique Reberotte.
Bonsoir.
Jusqu'ici, le pire scénario prévoyait une hausse de 4,8% entre la période pré-industrielle et 2100. Il est maintenant question de 7 degrés.
Oui, 4,8 degrés.
Oh, degrés.
7 degrés, c'est le scénario du pire, du on ne change rien. Ce scénario le plus pessimiste repose sur des économies qui continueraient donc à se développer, alimentées par des énergies fossiles essentiellement. C'est le scénario du business as usual qui ferait fi de l'accord de Paris. Ces prévisions encore plus sombres que ce que prévoyaient les anciennes simulations s'expliquent par l'utilisation d'outils plus fiable qu'il y a quelques années, c'est ce qu'expliquent donc les scientifiques français. Plus 7 degrés, cela signifie eh bien plus de records de température, de vagues de sécheresse et des canicules à répétition plus longues encore que celles de cet été, invivables aussi dans beaucoup d'endroits de la planète. Le scénario le plus optimiste maintenant s'appuie sur une coopération internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique extrêmement volontaire et ambitieuse. Olivier Boucher est chercheur à l'Institut Pierre-Simon Laplace.
Ces scénarios qui permettent de contenir le réchauffement climatique, eh bien, ils impliquent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière drastique dès maintenant et d'arriver à la neutralité carbone en 2060 à l'échelle planétaire.
À cette condition, il serait peut-être encore possible de rester donc sous l'objectif des 2 degrés du réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle, au prix tout de même d'un dépassement qui serait temporaire de cet objectif au cours du siècle.
Et alors pour cette hypothèse, pour que cette hypothèse la plus favorable devienne réalité, Véronique, il faut quand même déployer de très grands moyens.
Il faudrait, pour cela, disent les scientifiques français, agir vite, très vite pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et aussi capturer et stocker en grande quantité du CO2, Olivier Boucher.
Concrètement, ça veut dire consacrer des millions d'hectares à des cultures qui sont là pour essentiellement aller retirer du CO2 de l'atmosphère. Une manière de faire cela, c'est en plantant des arbres, de la biomasse, on récupère le CO2, on le stocke dans les sous-sols de manière à faire diminuer les concentrations atmosphériques. On peut aussi réfléchir à des moyens plus industriels d'aller rechercher du CO2 dans l'atmosphère. Donc là, c'est d'autres techniques pour lesquelles il existe des prototypes, mais là aussi, il y a vraiment une question de faisabilité, de mise à l'échelle en termes économiques, de ressources aussi et d'énergie.
Voilà, capture et stocker des CO2 par la géo-ingénierie, eh bien on ne sait pas surtout comment faire vraiment pour l'instant.
Merci beaucoup Véronique Reberotte pour cet avenir très encourageant. Le système électrique français a besoin de 33 milliards d'euros d'investissement sur 15 ans. C'est l'estimation faite par RTE, le gestionnaire du réseau à haute tension, dans son plan décennal d'évolution du réseau électrique français à l'horizon 2035. Hakim Kasmi, il a identifié de nombreux chantiers.
Et oui, Aurélie, le défi est à la hauteur des investissements. RTE doit renouveler un réseau vieillissant qui a une moyenne d'âge de 50 ans et dans le même temps répondre aux orientations de la future programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui prévoit notamment de réduire de 75 à 50% le parc nucléaire français, ce qui risque d'avoir des conséquences sur les prix de l'électricité. Sur ce point, RTE se refuse à tout commenter, expliquant que c'est à EDF de le faire. Thomas Vérinck, directeur stratégie d'RTE.
On ne fait pas de projection sur le prix de l'électricité. Là, le plan qu'on a présenté, c'est un plan sur le réseau. Le plan sur le réseau, il est dans l'épure de ce qu'on fait aujourd'hui, avec bien évidemment un peu d'investissement pour accueillir les nouvelles énergies ou pour renouveler l'infrastructure. Mais on est dans des scénarios dans lesquels on peut dire que le déploiement des énergies renouvelables ne conduit pas à faire exploser les coûts du système.
Pour compenser, RTE va également accroître son mix énergétique avec de l'éolien offshore et de l'interconnexion, ce qui existe déjà, hein, mais qui va l'intensifier avec nos voisins européens comme la Grande-Bretagne. Car les besoins sont réels, notamment avec le numérique qui est très énergivore. François Brotte, le président d'RTE.
Les nouveaux usages, c'est essentiellement l'informatique, les data centers et tous les ordinateurs qu'on utilise tous, chacun, le téléphone qu'on va charger tout le temps, etc. C'est tous ces éléments-là qui finissent par accroître la consommation, mais comme elle baisse par ailleurs sur les usages plus anciens, on est à l'équilibre.
Et le temps presse, car 32 centrales nucléaires doivent avoir leur visite décennale dans les 5 prochaines années.
Demain mercredi, le temps sera toujours très doux et bien ensoleillé. Sur la moitié nord, température minimale en baisse, 4 à 10 degrés, contre 12 à 20 au sud. Les maximales atteindront 18 à 23 de la Bretagne au Grand Est, 24 à 32 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.